Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur selon Météo France ces derniers jours, rendant ce mois de mai inédit sur le plan météorologique et climatique. L'armée israélienne a traversé le fleuve Litani, situé dans le sud du Liban, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que les opérations contre le Hezbollah s'intensifient. Et au Liban, 15 enfants ont été tués et 62 autres blessés depuis une semaine dans les frappes israéliennes, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Nous l'avons évoqué dans les titres, plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur selon Météo France ces derniers jours, rendant ce mois de mai inédit sur le plan météorologique et climatique. Direction le Moyen-Orient, l'armée israélienne a traversé le fleuve Litani, situé dans le sud du Liban, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël, a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que les opérations contre le Hezbollah s'intensifient dans le pays. Et au Liban, 15 enfants ont été tués et 62 autres ont été blessés depuis une semaine dans les frappes israéliennes, selon des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Le président libanais Joseph Aoun a affirmé au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qu'un cessez-le-feu avec Israël était un préalable à toute avancée diplomatique entre les deux pays qui ont entamé à Washington des négociations militaires. L'Iran, de son côté, a dit ne pas se fier aux paroles, mais s'attendre à des actes de la part des États-Unis, dont le vice-président Gil Evans a fait état de progrès vers un accord visant à stopper la guerre. On reste au Moyen-Orient. Des milliers de musulmans ont commencé aujourd'hui à quitter la Mecque en Arabie Saoudite après avoir accompli le grand pèlerinage sous une chaleur accablante et dans un contexte de forte tension dans la région. Ils étaient plus de 1,7 million de fidèles venus de 165 pays à participer à ce grand pèlerinage. Mais le changement climatique réduit progressivement les périodes de l'année durant lesquelles ce pèlerinage peut se tenir dans des conditions météorologiques supportables selon une étude du réseau scientifique international World Weather Attribution. Dans un tout autre volet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé avoir saisi la justice française sur les mauvais traitements infligés aux membres français de la flottille pour Gaza lors de leur déprovisoire en Israël. Et les avocates des membres français de la flottille ont dénoncé, je cite, le simulacre de condamnation de ces actes par la France et ont annoncé leur refus de rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour évoquer la question. Dans le reste de l'actualité, épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un premier patient confirmé positif au virus a été déclaré guéri ce mercredi, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. En France, l'Assemblée nationale a approuvé hier en première lecture et à l'unanimité l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Un texte jamais formellement abrogé après 1848 et on y revient dans notre dossier du jour à suivre. Enfin, le ballon d'or français Ousmane Dembélé, l'international marocain Achraf Hakimi sont bel et bien présents dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions ce samedi après leur retour de blessure en début de semaine. Coup d'envoi demain à 18h à Budapest en Hongrie. Un dispositif de sécurité particulièrement conséquent sera déployé demain en France pour cette finale. 22 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 8 000 à Paris et dans son agglomération, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, l'épisode caniculaire que nous vivons en France, est-il vraiment inédit? Oui, c'est incontestable, en tout cas d'après les climatologues. Mais dans le même temps, sur les réseaux sociaux, de nombreux contenus remettent en question cet état de fait. Beaucoup de désinformations circulent avec de fausses preuves à l'appui. On fait le tour sur la situation avec vous, Marco Alvarez.
Historique, inédit, exceptionnel. Depuis le début de cette canicule, les experts du climat ne manquent pas de qualificatifs. Mais pour certaines personnes, pas de lien avec le réchauffement climatique. Ceux qui le font, ce lien, journalistes météo, chercheurs, certains d'entre eux ont subi de nombreuses critiques et des insultes. C'est même allé plus loin. Serge Zaka, un ingénieur agronome très actif dans les médias, a dit être victime de menaces de mort. Alors sur quoi porte le différend? Voyons les principaux au sujet de crispation et la réponse qui leur est apportée. D'abord, une des accusations qui revient régulièrement, c'est l'idée que les chaînes de télévision manipuleraient leurs cartes météo, qu'elles les rendraient rouges, très foncées, pour faire peur. Réponse de la Société des journalistes de BFM TV, les cartes, je cite, rendent compte des faits, cela selon un code couleur employé de façon universelle dans les médias, des couleurs choisies en fonction des normales de saison, fixées par Météo France et basées sur des faits scientifiques faisant consensus. Fin de citation.
Et sur les réseaux sociaux, certains disent que l'on a déjà eu un tel épisode de chaleur en mai.
Oui, d'après certains, il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. La chaleur de cette fin mai n'aurait rien d'extraordinaire. Sont citées les années 1922, 1945 ou encore 1976 avec de supposées preuves. Alors certes, le 24 mai 1922, il a fait plus de 34 degrés à Paris. Oui, en 1945, il a aussi fait 34 degrés à Lyon. Mais la comparaison s'arrête là. Météo France l'assure, c'est inédit. Une telle intensité avant le début de l'été, y compris la nuit, à une telle échelle et pendant aussi longtemps, c'est du jamais vu.
Merci Marc-Aurel Barrès pour toutes ces précisions. Second dossier, l'Assemblée nationale a approuvé hier en première lecture et à l'unanimité l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogé après 1848. « Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves », a réagi le député Stevie Gustave lors du débat. Un discours émouvant qu'il a tenu à l'Assemblée nationale hier. On l'écoute.
Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Et c'est pour cela, au fond, le plus glaçant. Le moment où la loi cessait de protéger l'humain. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien. Je parle de mémoire. D'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, coupés de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libre. Et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération en génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébelle. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduite en esclavage sur le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Parce que le Code noir ne s'est pas arrêté aux portes de l'histoire. Le racisme ne disparaît jamais totalement. Il change de visage dans certaines discriminations, dans certaines inégalités, dans certains regards. Voilà pourquoi l'éducation et la transmission sont essentielles à la transmission. Parce qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire laisse toujours une place à l'ignorance et aux préjugés. Et après l'esclavage, la colonisation a prolongé certaines logiques de domination et d'inégalité. Et certaines traces traversent encore les siècles. Car le passé ne disparaît jamais totalement. Il réapparaît parfois dans une inégalité que certains territoires continuent de subir. Aux Antilles, les maladies liées au chlordécone continuent de briser des vies. Des familles vivent avec l'angoisse de la maladie. Des mères s'inquiètent pour leurs enfants. Et dans certains territoires ultramarins, quand l'eau manque, quand certains renoncent à se soigner, quand la vie chère étouffe des familles entières, alors ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de justice. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vie brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage.
TV Gustave, député écologiste. C'est donc 178 ans après l'abolition de l'esclavage que les députés ont approuvé à l'unanimité l'abrogation du Code noir et des textes qui avaient organisé l'esclavage dans les colonies françaises. Un vote à forte portée symbolique qui intervient 25 ans après la loi Taubira reconnaissant la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de cette loi ? La réponse de l'historien Pascal Blanchard.
Je pense qu'il y a trois niveaux importants. D'abord, les Français ont pris conscience de cette histoire, parce que la loi Taubira fait débat, que depuis elle a pu agir, que depuis la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été créée, qu'elle est active sur les territoires, notamment dans les écoles, qu'elle fait des expositions, qu'elle propose des messages, qu'elle soutient des thèses, quelque part, il y a une action publique autour du passé, de la mémoire de l'esclavage, dont je vous fais remarquer qu'il n'y a pas d'équivalent sur l'histoire coloniale. Deuxièmement, elle a replacé dans le récit français cette histoire coloniale qui était souvent perçue à la marge, comme si c'était là-bas. Non, ça fait aussi partie de notre récit du commun. Et là, je dis que ça a changé dans la perception qu'on peut en avoir. Et puis troisièmement, la France a fait un acte symbolique, cette fois-ci à l'échelle internationale, puisque ça a été la première puissance occidentale ex-esclavagiste qui a décidé dans un texte de loi, et la première au monde, à considérer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ces trois dimensions-là, en 25 ans, ont en profondeur modifié la prise de conscience en France sur ces enjeux. Et je dois dire que la France, là-dessus, a été moteur, et on peut même regretter qu'elle n'ait pas su, quelque part, prolonger cet élan. On l'a vu récemment avec un vote à l'ONU où la France s'est abstenue, ou, ce que beaucoup demandent aussi à la France, d'avoir un travail similaire sur la période de la colonisation, qui suit, d'une certaine manière, la période qu'on appelle esclavagiste, du colonialisme esclavagiste, qui a été sous l'ancien régime dominant.
Pascal Blanchard, historien, au micro de Nadia Bencher. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.